Yo, c'est Rocking Squat sur Pop, 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 c'est parti, Bouyouka Shot.
Pop-Pop-Yen, et tous les autres aussi, bonjour. Après la Toussaint, passons au dessin. Oui, commençons cette semaine encore sous les soubresauts de la tempête Amélie, une Amélie plus proche d'un étalon fougueux que d'un poulain, en rencontrant des artistes qui se servent du dessin pour imaginer d'autres manières d'appréhender le monde. Il fallait au moins ça aujourd'hui, pour me faire sortir de mon lit ou m'atlouer tout le week-end d'un mauvais virus que j'ai baptisé aussitôt Fontanus, comme notre réalisateur, tant il m'a pris la tête. Je vous passe les détails, mais enfin, fièvre de cheval et pas de poulain comme Amélie, l'impression que les mots s'entremêlent au point de mélanger une tempête d'automne et Fontanus, frissonnement, courbature, quinte de tout, écoulement en un mot comme en mille, l'article de la mort, ce qui diront certains, est de saison. Mais bon, je suis là. Vaillant? Non. En possession de tous mes moyens? Encore moins. Impatient de trouver mon lit? Vous n'imaginez même pas. Mais, même à moitié crevé, je n'aurais pas raté ce rendez-vous avec deux dessinateurs, j'y reviens, dont le travail me touche au plus haut point, d'autant plus qu'il va aussi être question de boxe. Tiens, rien que d'en parler, j'ai l'impression que je me sens déjà un peu mieux. Enki Bilal est l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Paune.
Bonjour Enki.
Bonjour.
Et re-bienvenue dans Pop Pop Pop.
Re-remercie.
À mes côtés, celle qui porte un masque chirurgical pour éviter le virus Fontanus, Charline Roux.
C'est l'heure de la piqûre.
Bonjour
Charline. Bonjour Antoine.
Bonjour Enki. Vous changerez mon réservoir aussi. Au menu de Pop Pop Pop, on va parler de chess boxing avec le fondateur de la Fédération Française, Guillaume Salençon. Le chess boxing, qu'est-ce que c'est? Réponse tout à l'heure. Avec nous également, en fin d'émission, celui qui aura peut-être la chance d'entendre ça.
And the Oscar goes to...
Jérémy Clapin, ouais! Le réalisateur du film d'animation J'ai perdu mon corps, présélectionné pour les Oscars. Mais avant ça, Enki Bilal, ici, vous le savez, il existe une question préliminaire, une question que je pose avec la même voix que dans les blockbusters hollywoodiens. Et cette question, c'est... Pour vous, Enki, c'est quoi la pop culture? Alors attendez, avant de répondre, que pour être totalement honnête, j'ai déjà eu des réponses bilalisées, bilalisantes et même bilalatives. Et parmi mes préférées, il y a celle d'un autre Bilal.
Ouais. Moi, quand je pense pop culture, je pense une image. Et pour moi, la pop culture telle que je la connais, la pop, c'est les années... 2004 à 2009, le trio Britney Spears, Lindsay Lohan, Paris Hilton qui sortent en boîte sans culotte. C'est cette attraction en fait à la hit girl et au hit boy de la semaine. Et ça dure des fois 2 heures, comme ça dure 2 ans. Et voilà, moi c'est ça ce qui me marque. Quand tu penses pop culture, je vois ça directement.
Bilal Hassani, bien sûr. Et pour vous, Enki, Bilal Hassani?
Moi, Bilal, c'est mon vrai nom. Oui. C'est mon nom. Bilal, c'est devenu un prénom très à la mode. Donc, je suis un peu...
D'origine ottomane.
Ouais, absolument. Hein? Donc, maintenant, on me dit souvent, quand j'appelle un taxi, Monsieur Enki.
Monsieur Enki.
Votre taxi est avancé, croyant que Bilal est mon prénom.
Vous gagnez du temps pour ne pas répondre à ma question.
Non, alors, la pop culture, qu'est-ce? Nous sommes en train d'en faire. La pop culture, c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Parler du chess boxing, de la musique, de la littérature, de la culture, y compris des maladies qui nous guettent, qui nous traversent, c'est la vie.
C'est donc tout ce qui nous traverse.
Tout ce qui nous traverse.
D'accord, donc moi la grippe plutôt, aujourd'hui.
Donc c'est culturel.
Okay. Oui,
mais pop. Et c'est très pop.
Mais non. On pourrait dire que le chess boxing, c'est une bonne définition de la pop culture.
Je pense, oui. Je pense réellement. La pop culture, c'est aussi toute la... Quand on invente, quand on, je sais pas, on traverse de nouvelles contrées, il y a ce côté un peu découvreur. Et là, on arpente de nouveaux territoires, oui.
Très bien. Voilà une définition qui me convient. Vous voyez l'idée, Charline?
Oui, Antoine. Bon, vous allez bien? Ça va aller?
Oui, redonnez-moi le réservoir. La pop, la culture et la pop culture, on en parle dans la suite de Pop Pop Pop, juste après Team Dup et le morceau après eux.
Dans la chaleur, moi, de juillet, sur un vieux scooter débridé, par la vitesse, les larmes tirées tombent sur leurs jambes dénudées. Ils revèrent le lac assuré que rien ne puisse leur arriver. Trop jeune et déjà cabossé d'une vie en ronce et de fleurs fanées. Au-dessus de l'usine, le ciel est dégagé. Dans l'eau vert bouteille se reflète l'été. Étendu dans l'herbe, ils ne font que fumer, perdus dans leur rêve.
le souffle du sirocco. En sourdine un morceau de techno. Le soleil au zénith qui brûle la peau. Rafraîchi de désir, si loin des idéaux. Il se mordent les lèvres et se dévore. Haute leur jean cul nu sous les rayons d'or. Leurs mains se cherchent et se trouvent encore. Pour languir le plaisir qui finit par éclore. D'étoiles, les ombres tombent sur ton. L'obscurité déposera sur les couleurs un voile. Il se fabrique des souvenirs avant que tout ne s'estompe. Que l'on oublie les voix et les feux de Bengale.
Après eux, Team Dup, cet extrait de l'album Quand restera-t-il ? Et c'est effectivement un peu tôt pour le dire. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bilal, ou de Enki.
Enki Bilal.
De Monsieur Enki, ou de Bilal ?
Monsieur Enki Bilal.
De Monsieur Enki Bilal. Vous l'aurez compris, mais un Bilal qui fait moins de vibes.
Bonsoir Paris, yeah.
Que l'autre donc, mais qui est-il et pourquoi ne fait-il pas de vibes ? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, son pop portrait, c'est votre portrait, Enki, mais... Et c'est signé Charline Rourrer.
Oh, c'est un petit enroué de début de semaine, ouais. Aujourd'hui, un invité que l'on connaît pour son travail graphique remarqué et remarquable. Il est le réalisateur de Bunker Palace Hotel, d'Immortel Ad Vitam, entre autres. Il crée des univers entiers pour l'opéra, le ciné, il expose. Il est l'auteur de Légendes d'aujourd'hui, de la tétralogie du monstre, de Bug ou encore de la trilogie Nicopole. Des œuvres dans lesquelles il est souvent question de mémoire et de chaos. Pas étonnant donc qu'il ait encore associé ces deux principes en changeant sensiblement l'orthographe pour créer une discipline née en BD et pratiquée dans la vraie vie, le chessboxing, soit donc l'alliance de la mémoire et de la stratégie et du chaos, mais cette fois en deux mots, enfin en deux lettres, ça suffit. Un sport hybride mélangeant boxe et échecs. Sachez donc que si notre invité peut jouer à égalité avec les Giro, les Manara, les Libérateurs, il est aussi l'un des pères de William Wabellis ou de James Naismith, qui sont donc les créateurs du rugby et du basket. J'ai fait mes petites recherches. Échecs, maths et uppercut au programme aujourd'hui.
Bien, merci. Donc, je reviens juste à ça, vous ne faites pas de vibes ?
De vibes ?
Oui, comme votre Bilal, comme l'autre Bilal. Vous savez que les vibes, c'est un peu dans ce genre-là.
Ah, le petit qui a parlé avant moi ? Le grand, yeah. Ah, le grand ancêtre, ouais. Le lointain. Oui, il était noir, on dit. C'était un grand black, il paraît.
Bilal Hassani ?
Non, ah non, non, le premier muezzin de Mahomet.
Ah, non, attendez, non, on ne parle pas de la même chose. Grand, non, la même chose. Vous me parlez de Bilal, le premier muezzin de Mahomet.
Oui,
moi,
oui.
Je vous parle de Bilal Hassani, qui est un jeune artiste.
Qui en est un descendant, j'imagine.
Qui en est un lointain descendant. Mais donc, pas de vibes.
Non.
Non, d'accord. C'était juste pour en avoir le cœur net.
Pour nous différencier.
Absolument. Enki, direction la pop planète. C'est l'heure de votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur un livre qui s'appelle « Ce qui est sans être tout à fait, essai sur le vide » d'Étienne Klein, paru en septembre 2019. Charline, c'est exactement l'état dans lequel je me sens aujourd'hui. À cause de la grippe, donc, que j'évoquais légèrement au début d'émission. J'imagine que ce n'est pas pour autant un livre sur les états fiévreux.
Non, pas exactement, Antoine, mais reprenez donc un peu d'acide acétylsalicylique. Le vide dont il est question dans ce livre est abordé sous l'angle philosophique puisque Étienne Klein montre que la vie du vide est contre toute attente une vie dense.
Enki Bilal, Auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît?
Alors, absolument. Alors, c'est un essai sur le vide. Alors, je suis en train de le lire, je le déguste par petites doses, parce que je devais faire une rencontre à Nancy lors d'un colloque littéraire. J'ai été empêché pour des raisons indépendantes de ma volonté. Donc, j'ai raté cette rencontre, mais je ne rate pas le livre que je suis en train de lire. Et je vais vous en dire quelques lignes. Vous devriez apprendre à faire le vide. Expression décidément curieuse. On saisit intuitivement qu'il ne saurait s'agir de faire le néant, même si les mots vide et néant sont souvent confondus. Faire le néant équivaudrait à supprimer l'univers tout entier, y compris son espace et son temps, et constituerait une entreprise apocalyptique et par trop présomptueuse, surtout si on définit le néant au plus ras de lui-même, à la manière de Raymond Devos, un trou avec rien autour. Il ne saurait s'agir non plus de rien, de ne rien faire, de devenir fainéant, bien que cette entreprise soit davantage à ma portée. Au demeurant, ne crée-t-on pas un paradoxe en accolant le verbe « faire » qui suppose une action au mot « rien » dont le surgissement vient aussitôt abolir toute action.
Ça me plaît beaucoup ce que vous venez de lire, Anne
Kibilal. C'est pas de moi.
Non, mais alors pourquoi...
Étienne Klein.
Pourquoi choisir ce... vide
Anne Kibilal,
c'était bien, hein, ouais. J'ai réussi celui-là. Pourquoi?
Pourquoi j'ai choisi ça?
Oui, comment est-ce que vous êtes tombé sur là-dessus?
Parce que je devais le rencontrer. Lui, il a lu sans doute mes œuvres ou une de mes œuvres. Moi, je lis. Oh non, ça c'est sa dernière production, et je suis sidéré. Alors, je connaissais déjà le personnage. Je sais parfaitement que c'est un philosophe qui va chercher dans la prospective, qui cherche à expliquer des choses qui paraissent inexplicables, ce qui est le cas du vide. Mm-hmm. Et donc ça m'a plu. Évidemment, je suis très déçu de ne l'avoir pas rencontré, mais là, je suis en train de faire cette lecture, et ça tombe très très bien qu'on me demande ce que je suis en train de lire aujourd'hui et ce qui me plaît.
Et pourquoi le vide vous fascine-t-il tant?
Parce que je participe à une émission de pop culture.
Ouais.
Non,
donc la définition pleine, du vide par excellence, c'est ça, oui.
Pleine de vide à combler. Non, pourquoi le vide? Non, mais c'est parce que c'est intéressant quand même, non?
Oui, bien sûr.
Moi, je trouve ça très intéressant.
C'est un sujet passionnant, ouais. C'est quand même, je veux dire.
Ah oui, Non, et puis c'est bien de se poser un peu aujourd'hui, de réfléchir un peu, parce que ça demande une réflexion à un temps, hein, de penser au vide. Ça demande du temps. Aujourd'hui, on pense plus à rien. On est en débat, sans nuance, hein, on s'oppose, on est en guerre permanente. Moi, je trouve que c'est bien de se poser.
On est saturé d'infos, on est saturé de.
Voilà.
Ok, très bien. Ensuite, pour le film Enki, vous avez choisi l'édition Blu-ray de Requiem pour un massacre, film réalisé par LM Klimov, sorti originellement en 85. Charline, si je ne m'abuse, ce n'est pas tout à fait un film de guerre comme les autres, n'est-ce pas?
Non, car le personnage central est un enfant Fliora qui déterre en 43 en Biélorussie le fusil d'un soldat mort et s'engage chez les partisans contre l'envahisseur allemand.
Extrait.
Adieu.
Extrait de Requiem pour un massacre de LM Klimov, l'édition Blu-ray. Effectivement, on sent bien la différence entre l'édition Blu-ray et VHS.
Au niveau du son, déjà, ça se sent. J'espère au niveau de l'image, je l'ai pas vu encore, mais je connais, c'est un film que j'ai vu 3 ou 4 fois, qui effectivement, alors pour simplifier les choses, il faut
dire
que
je vais mettre les choses au point, je ne l'ai pas vu ce film.
D'accord. Alors,
Charline, vous l'avez vu?
Non.
Bon, alors expliquez-nous pourquoi il faut qu'on le voie ce soir.
Alors, parce que effectivement, ça démarre pas comme un film de guerre, et ça démarre comme un film de guerre en même temps à travers les yeux, le regard d'un enfant, et c'est l'errance, le jeune homme, cette errance où il va croiser une jeune fille, il y a tout un tas d'émois aussi de la vraie vie, hein, et puis petit à petit, il va s'obséder, il va vouloir faire la peau à Hitler. Voilà, tout simplement. C'est un beau projet. Là, c'est vraiment très, très, très résumé, très rapidement, mais c'est un film qui a une montée, une espèce de progression. Et je dirais simplement qu'au niveau de la réalisation, c'est remarquable. C'est un format 4 tiers, hein, ça va en décourager pas mal. Hein, c'est pas du tout le format cinémascope, etc. Mais ceux qui font justement le cinémascope, hein, les Spielberg, les Coppola, sont les premiers à dire que c'est le chef-d'œuvre absolu dans le cinéma, dans les films de guerre. Et c'est plus qu'un film de guerre, voilà. Avec un final exceptionnel, voilà.
C'était plus que convaincant. Charline ?
Oui.
Ce soir ?
Oui.
Ok. Enki Bilal, Peaky Blinders, c'est la série que vous choisissez, créée par Steven Knight et diffusée depuis 2013 sur la BBC et Netflix en France. Charline, profitons-en pour faire un point mode. Peaky Blinders...
Peaky Blinders. Vous êtes picard, ouais. vous êtes du Nord aussi, vous.
Peaky Blinders a-t-il suffi à relancer la mode des capettes?
Bah, ça dépend, est-ce que vous considérez que vous avez une tête à chapeau? C'est la seule question à se poser. Parce que les gars de Birmingham cachent, eux, dans la visière, une petite lame de rasoir pour la bagarre. Et vous, Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous votre grand chapeau?
Bon, allez, bande annonce. We're Peaky Blinders. We're not scared of coppers. We will rid this city of his kind. Justice will be done. If you want to be part of my organization, you have to make sacrifices. I'm a businessman. I want to make my business successful. From now on, you're doing my way. Alors, le gang de Peaky Blinders. Pourquoi plutôt ce gang-là, plutôt que celui de Plus belle la vie, par exemple?
Ou j'ai hésité avec Thierry Lafronde aussi.
Notre époque.
En Blu-ray.
Oui, en Blu-ray, pardon, excusez-moi. Autant pour
c'est
moi.
Pas pareil. Non, pourquoi Peaky Blinders? Parce que ça, je suis dans cette série-là, parmi d'autres. Hein. Non, il y a un ton, il y a une image, il y a une couleur, il y a une qualité de réalisation, un style, donc on va dire. Il y a... puis alors, c'est très pop culture, parce qu'il y a une musique qui est en total décalage, mais qui est exceptionnelle. C'est du rock qui va aller sur des images...
Il y a des compiles qui sortent, c'est ça.
Non, c'est remarquable. Je pense que c'est pas nouveau de le dire. Hein. Je suis un peu en retard là-dedans, parce que c'est une série qui est déjà très très confirmée. Mmh. Mais bon, moi, je suis un peu en retard. Je peux pas regarder toutes les séries, comme plein de gens qui disent, j'ai déjà vu. Donc, j'en suis là. D'accord. Je suis très fier d'être là-dessus parce que c'est une série qui en même temps qui a un rythme qui est, je trouve, européen et ça me plaît bien.
Et ce qui est très étonnant, c'est que le héros qui est incarné par Cillian Murphy,
magnifique,
il a quelque chose des personnages que vous pourriez dessiner. Exactement, je trouve dans le visage, dans les yeux, dans le.
Je suis sensible sans doute aussi au style général de la série. Visuellement, c'est quelque chose qui me parle, qui me touche avec des monochromes plutôt dans les ocres, ce qui est pas tout à fait mon cas, mais c'est intéressant. Et puis alors, pour la petite histoire, j'ai vu ça tout à fait par hasard, Brad Pitt souhaiterait...
Oui.
Je sais pas, deux jours avant, on lit qu'il arrête le cinéma et puis il a envie de réintégrer, d'intégrer plutôt cette équipe, c'est plutôt bien.
Ça ne vous a pas persuadé pour autant d'abandonner votre petit bonnet légendaire
C'était une petite lame. C'était une petite lame cachée
dedans.
Avec lame
de rasoir.
Il y a plein de choses là autour, là. C'est breton.
Ouais, j'irai pas vérifier. Bon, enfin, Enki, terminons cette pop-liste avec votre chanson culte et cette chanson, c'est celle-ci. I'm Easy to Find par The National, sorti en 2019. Alors, question complètement idiote, mais quand on aime un groupe comme le National, ça ne fait pas de vous un nationaliste?
Ah non,
le
surtout pas.
Le Belge, hein,
oui. Oui, mais il a une excuse en béton. Ouais. pour ce vide passager. Non, j'irai pas sur ce terrain-là. Surtout pas. Ouais. Mais en même temps, c'est apparemment le groupe préféré d'Obama. Donc, il y a quelque chose d'un peu nationaliste là-dedans. Obama préfère un groupe américain. Il pourrait préférer un groupe français, par exemple. Ça, c'est le dernier disque, Donc, moi, c'est un groupe que je suis, que j'aime vraiment, j'apprécie beaucoup. Et ce qui est étonnant dans celui-là, c'est qu'il y a énormément de voix féminines. Ouais. Donc, c'est ce qu'on a un peu entendu. Ouais. Et la magnifique voix du leader, du chanteur dont le nom m'échappe.
Matt Berninger.
Voilà, absolument.
Bravo, Charline.
Voilà. Ce disque vient de sortir, je ne l'ai pas écouté en entier, mais je l'ai chargé sur mon ordinateur.
Bien, alors je résume, Étienne Klein, Requiem pour un massacre, Peaky Blinders et The National, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture, et ça nous donne ça. 1, 2, 3. We're not scared of coppers. Justice will be done.
faire le néant équivaudrait à supprimer l'univers tout entier, y compris son espace et son temps, et constituerait une entreprise apocalyptique.
Et voilà ce qui traîne dans la tête d'Enki Bilal.
Oui, mais qu'est-ce que je viens d'entendre? Je viens d'entendre ce que j'ai dit au début. Mmh. La pop culture, c'est ce qu'on est en train de faire. Mmh. Et vous l'avez fait en temps réel.
Démonstration, bravo. Et grâce soit rendue à Ghislain Fontanus, notre réalisateur qui me prend pourtant bien la tête. Alors, Enki Bilal, on va parler de chess boxing dans la suite de Pop. Juste après, un morceau des Nationals. I am easy to find. Oui, titre choisi totalement par hasard, mais comme le hasard fait bien les choses, on l'écoute tout de suite.
Been here, am I ever coming down? I need to find some lower thinking if I'm gonna stick around. I'm not going anywhere. Who do I think I'm kidding? I'm still standing in the same place where you left me standing. I am easy. To the skies, an academy of lies. You never were much of a New Yorker, it wasn't in your eyes. If you ever come around this way again, you'll see me standing in the sunlight, in the middle of the street. I am easy. Thank you.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Et Charline Roux. Bug, BD et dessin sont les premiers résultats qui tombent en premier quand on tape votre nom dans Google, Nkibilal. Mais aujourd'hui, on va parler de chessboxing, si vous le voulez bien, et je sais que vous le voulez bien. Et avec nous pour en parler, le fondateur de la Fédération française de chessboxing, Guillaume Salençon. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Mais attendez. Le chessboxing, hein, qu'est-ce que c'est ?
Alors, ça a été créé par Inky, justement, dans une BD. Et en fait, un artiste néerlandais en 2003 a voilà créé les règles pour que, justement, on puisse pratiquer le chessboxing. Donc, c'est une alternance d'un round d'échecs. On commence par les échecs sur un ring. 3 minutes d'échecs en blitz, c'est les parties rapides. Mm-hmm. Et si la partie n'est pas finie, on va sur un round de boxe pendant 3 minutes. Et un round d'échecs et un round de boxe jusqu'à ce qu'il y ait échec et mat ou KO, qui sont les deux façons de gagner.
Voilà, c'est clair.
Et la partie est rarement finie au bout des 3 minutes d'échecs.
Oui, hein. Voilà, oui. Sur le premier round.
Non, Kasparov, quoi.
Ouais, voilà. Même ouais. Kasparov, je pense.
Non, et puis on essaye d'avoir des combattants qui se tiennent au niveau, oui. Enfin, sur leur niveau d'échecs, donc, ça, voilà.
C'est 11 rounds en tout, c'est ça?
Voilà, c'est 6 rounds d'échecs.
C'est 6 échecs, 5 de boxe. Les échecs, vous le disiez, se jouent en temps donné. Les combattants sont torse nu, sans casque de protection pour la boxe, mais avec un casque anti-bruit pour être isolé pendant les parties d'échecs. C'est presque une performance artistique.
C'est un peu ça. C'est vrai que c'est plus qu'un sport. En tout cas, nous, ce qu'on veut faire sur le combat, le premier combat qu'on organise en France, là, samedi, c'est justement essayer de décloisonner un petit peu les échecs et la boxe, sortir du gymnase classique, on va dire, et d'avoir un show un peu autour de ça, un peu un rock'n'roll. C'est ce que faisait Yepé à Berlin, et c'est ce que nous, on veut faire aussi. C'est pour ça qu'on le fait au Cabaret Sauvage, et dans des endroits un petit peu, voilà, on va dire, underground, pas underground, mais différent en tout cas.
Alors pourquoi parle-t-on de chessboxing aujourd'hui ? Eh bien simplement parce que c'est vous, Enki, qui avez imaginé ce mash-up improbable de sports. C'était dans Froid Équateur, le tome 3 de la trilogie Nicopole en 92. Et je voudrais comprendre comment cette idée est venue, comment elle a germé.
Bah c'est, en fait, j'étais en train de faire le portrait d'une société obsédée par la performance. C'était un peu le début d'Internet, enfin de tout ce qui était numérique. Il fallait noter absolument toutes les performances. Donc cette société avait une série d'échelles de valeurs, comme l'échelle de Richter, par exemple, donc pour les tremblements de terre. Donc je m'emporte dans mon délire, et comme je voulais qu'il y ait une forme de performance sportive, parce que c'est une vitrine. Moi, j'ai souvent utilisé le sport comme vitrine des idéologies, hein, dans tout ce que j'ai fait avant, avec le hockey sur glace, avec le foot, etc. Et donc là, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui pourrait être l'excellence même comme performance sportive pour l'être humain le plus parfait. Bon. Et tout d'un coup, je me suis dit, l'intelligence, les échecs, puis la boxe. Et c'est parti comme ça. J'ai visualisé immédiatement le ring. Et voilà, c'est parti comme ça. Je l'ai utilisé juste ce qu'il fallait dans la narration, parce que c'était ça le but, c'était pas d'imaginer un sport. Et lorsque 10 ans plus tard, Yper Rubing, donc, dont vient de parler Guillaume, me contacte en me disant, voilà, je voudrais, moi, mettre en pratique ce que j'ai lu dans Froid Équateur. J'étais en train de préparer mon troisième film, donc j'étais en plein dedans. Ouais. J'ai même pas répondu à Yper, mais j'ai trouvé ça très touchant. Je trouve ça marrant.
C'est-à-dire, cet attelage vous est venu immédiatement en tête, boxe et échec. Ah oui, il n'y a jamais eu d'autres tentatives en faisant un autre sport, un autre. C'était ça, immédiatement.
Immédiatement. Et après, seulement 2-3 ans après, j'ai vu des images de biathlon. Alors, biathlon, c'est quoi ? C'est ski de fond et tir, carabine de précision. Et là, je me dis, tiens, c'est marrant. En fait, c'est la même logique.
C'est peut-être le sport qui se rapproche
Le plus. Mais non, c'est une association qui est venue comme ça et. Et moi, j'aime bien les idées rapides parce que c'est valide.
Qui se rapproche le plus, le chessboxing, dans la boxe, il est bien pratiqué, vous défoncez un peu l'adversaire.
Oui.
Vous lui ôtez, alors que le biathlon.
C'est vrai, bien sûr.
Faites une pause, mais.
Bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est dans l'alliance des deux, enfin, de cette différence-là.
Deux choses opposées,
le physique et la concentration. Oui. C'est-à-dire que je pense qu'au biathlon, ce qui est très dur, c'est de faire baisser son cardio et de pouvoir vraiment, tirer. Mm-hmm. Donc là, on a à peu près les mêmes effets sur le chessboxing, parce que la complexité est de revenir sur l'échiquier après 3 minutes d'effort intensif et voilà.
Guillaume, vous parlez de cette discipline comme d'une discipline qui casse les stéréotypes, la brute et le geek en l'occurrence. À laquelle des deux catégories vous aviez peur d'appartenir?
Alors justement, moi c'est parce que je veux appartenir à aucune et que je trouve que c'est très intéressant de faire se rencontrer ces deux mondes qui auraient jamais dû se rencontrer en fait. Et c'est ça, moi je trouve qui est absolument brillant, c'est que alors pour travailler justement avec l'équipe de France et avec tous ces chessboxeurs, on a de tout, c'est-à-dire qu'on a vraiment des très bons boxeurs, des très bons joueurs d'échecs, et ces gens-là, en fait, se rencontrent sans aucun a priori, sans aucun cliché, stéréotype. Et ça, moi, c'est ce qui m'intéresse, surtout dans une société où, aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de nuance, on est pour ou contre. Enfin, là, c'est vraiment, on va les uns vers les autres, on apprend à se connaître, et on a moins peur de tout ça, et ce qui fait que ça fait des mecs super, quoi. Moi, les gens de mon équipe, d'équipe de France, sont vraiment des gens incroyables.
Enki Bilal, 17 ans après avoir imaginé le chessboxing, dans l'album dont on parlait il y a quelques instants, 3500 licenciés, principalement en Europe, en Asie, mais aussi aux États-Unis. Quel effet ça fait à l'artiste que vous êtes de voir une idée qui est devenue à ce point concrète?
On me pose évidemment souvent la question et j'ai pas de réponse. J'ai pas trouvé la réponse. À part le côté très, l'ego, on s'en fout de l'ego, ça flatte pas mon ego, mais ça me fait plaisir. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de, une espèce de sentiment de plénitude. Voilà, il y a des gens qui reprennent ça. Et moi, ça s'arrête au moment où j'ai posé la graine. Je veux dire, où j'ai posé l'idée. Je l'ai posé dans un but purement narratif, dans un contexte particulier, et que ça soit repris. Alors, par un autre artiste, ça, c'est très émouvant. Hyper Ubing. Ça, j'y vois aussi un signe. Hein. C'est ce qu'on se disait sur le fait que c'est des artistes. Soit tu reprends ça, tu viens du spectacle, du monde. Il y a quelque chose d'atypique. On n'est pas dans le sport brut. On est dans voilà. Et ça, évidemment, ça fait, c'est très agréable. Et alors maintenant, évidemment, je suis le premier à vouloir que le chess boxing devienne un sport olympique.
Ouais, c'est ça, c'est la prochaine étape.
Bah, moi, je suis le deuxième.
Mais c'est envisageable.
Bah, alors, c'est complètement envisageable. Alors, au début, on en parlait avec Enki, mais sans, voilà, un peu. Mais en fait, voilà, j'ai rencontré pas mal de gens, du coup, spécialisés un peu là-dedans, et c'est complètement envisageable. Alors, bien sûr, ça va être un travail de titan, mais en tout cas, nous, on a très envie. Voilà, pourquoi est-ce qu'il y a le curling? Bon, je pense que le chessboxing,
alors après,
non, mais je veux dire, voilà, on a des valeurs dans le chessboxing qui représentent les valeurs de l'Olympisme, donc voilà, pourquoi pas tenter ça.
Vous avez d'ailleurs très bien résumé l'esprit du chessboxing en disant, on prend des coups et le meilleur moyen de ne pas finir au tapis, c'est de réfléchir et adapter sa stratégie pour faire face à l'adversaire. En fait, c'est quasiment une école de vie.
C'est exactement ce que j'allais dire, c'est la vie, c'est le calme contre le chaos, c'est l'intelligence contre la force. Enfin, c'est la vie, quoi, tout simplement. Donc, il faut être. Je pense que aujourd'hui, dans cette société un peu ultra violente, complexe, je pense qu'il faut être préparé et à ça. Et je pense que le chessboxing, nous, on fait beaucoup d'initiations chez les enfants dans les écoles d'échecs, tout ça. Et ça marche énormément parce que c'est extrêmement complémentaire au final.
Il faut être préparé à taper et à réfléchir.
C'est ça.
Plutôt réfléchir avant de taper.
Il faut être préparé à taper et à éviter aussi, parce que la boxe n'est pas aussi violente. Les échecs sont très violents.
C'est un sport d'esquive,
la boxe. Et les échecs sont très violents à leur manière. C'est-à-dire que quand vous jouez une grosse partie importante, là je reviens d'un gros tournoi d'échecs dans le sud de la France, j'ai vu des gars perdre et être touchés comme un coup, quoi.
Un boxeur.
Mais alors, en quoi consistent les entraînements? Parce que vous parliez là de jeunes gens. Et est-ce que vous avez besoin, vous avez des lieux adaptés?
Alors non, alors on n'a rien de tout ça, on est tout jeune, on commence. Alors on a fait des stages de préparation à 7 notamment, parce que moi je suis de là-bas, donc je les fais tous venir à 7, c'est plus simple pour moi. Et après, les préparations, les entraînements se font un peu comme on peut, c'est-à-dire qu'on a un maître international d'échecs qui est notre coach, on a des coachs de boxe, mais si vous voulez, on est en train de tout inventer. Donc ça, on est en train d'inventer les protocoles d'entraînement, les clubs se créent, enfin on est dans une démarche complètement folle où on crée une fédération. Je crois que c'est comme Enki a créé un sport comme le foot ou le rugby, ben nous on crée une fédération, c'est quelque chose de fou, enfin voilà, donc on improvise, quoi.
Enki. Mais on a assisté, on peut en parler, Antoine, on a assisté à un entraînement à la Fédération internationale de chessboxing à Berlin.
Et c'est Antoine
qui faisait un documentaire sur Berlin, qui m'a embarqué là-dedans pour me proposer de la rencontre, la première rencontre avec Hyper Ubing. Et on a vu l'entraînement je me souviens, il y avait une jeune femme au milieu d'une dizaine de mecs, on est entré dans une salle gigantesque, ça sentait le fauve.
Oui.
Ça transpirait et en même temps on voyait des gens à la fois sauter à la corde, taper dans un punching ball et jouer dans blitz, c'est-à-dire très rapide. Et puis dans un coin il y avait le ring qui attendait la démonstration qui a été filmée.
C'est un sport génial, le chess boxing, voilà. Il a été inventé par Enki. Et il est fédéré, on peut dire, aujourd'hui par Guillaume. Et la rencontre voilà. qui arrive, c'est
donc le premier combat historique, c'est au Cabaret Sauvage, samedi 9 novembre, à partir de 19h. Venez voir ça, parce que moi, ça a changé ma vie. Donc,
ouais,
j'invite
venez
tout
tous
le monde.
En masse, voilà. Absolument. Dites-moi, les gars, là, vous savez faire plein de choses, vous savez faire ça?
Bien sûr.
Enki?
Ouais. C'est catastrophique.
Guillaume l'emporte, évidemment.
C'est quelqu'un de fermé.
Oui, c'est pour lancer les pop news.
C'est filmé.
Et bientôt
en plus.
Un nouvel album pour Coldplay intitulé Everyday Life. Et les Anglais ne font pas les choses à moitié. Déjà, ce nouvel album est un double, scindé en deux parties, Sunrise et Sunset. Et pour en parler, le groupe a dévoilé la vidéo d'une fausse conférence de presse assez lunaire. Chris Martin et Co sont assis face à un public composé de peluches, de Reine Elisabeth et autres Marilyn Monroe en carton, ou encore des comédiens Fred Armisen et Carrie Bronstein de la série Portlandia. Et en gros, c'est n'importe quoi.
I would love if everyone in the band could answer this question. When was the first moment in your life that you realized, I want to play music?
For me,
Vous venez donc d'apprendre de la bouche de tous les Coldplay en même temps, quand s'est manifesté pour la première fois leur envie de faire de la musique, et Everyday Life, le nouvel album, sortira le 22 novembre.
Oubliez les octogones, façon arlésienne, promis par des rappeurs qui, pour se bagarrer, aiment se parfumer. Nous, on a de la bagarre de mauvais garçons à l'anglaise, et on a un concurrent dont je vous livre les déclarations faites au GQ anglais. Lorsque vous suivez vos séances aux Alcooliques Anonymes, on vous demande d'écrire la liste de vos ressentiments. La mienne ressemblait à Guerre et Paix. Et oui, Liam Gallagher y figurait. Et oui, encore aujourd'hui, j'aimerais bien me battre avec lui. Et cet homme, belliqueux, c'est lui.
Are you hanging up your stockings on the wall? It's the time that...
Robbie Williams, le bagarreur, pourtant de retour pour un album de Noël, comme vous l'entendez en ce moment, et The Christmas Present, c'est le titre qui sortira lui aussi le 22 novembre.
Et ça y est, c'est mercredi.
Le Festival de Cannes, l'événement médiatique que le monde entier nous envie.
Alors vous allez être content parce que l'année dernière, c'est Nicoletta qui avait votre chambre.
Mais le monde du cinéma est parfois une jungle bien cruelle.
Aïe. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Jusqu'à où on peut-on aller pour promotionniser un film? Jusqu'à le meurtre? Jusqu'à où?
Le coffret collector de la Cité de la Peur sort enfin. Il contient le film en Blu-ray et en DVD, La Carioca, réalisé au dernier festival de Cannes, le nul par ailleurs de 94 avec les nuls pour la sortie du film, le jeu de société, l'affiche du film et le making-of.
Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine de Cône.
Oui, c'est moi.
Robbie Williams.
Bienvenue, la voix française de Robbie Williams.
Ouais, c'est très étonnant.
Merci Charline. Avant de parler du très réussi film d'animation J'ai perdu mon corps avec son réalisateur Jérémy Clapin, dans la suite de Pop Pop, on écoute The Do et le morceau Miracles. Miracles, cet extrait de l'album Shake Shook Shaken. Je secoue, j'ai secoué et je suis secoué.
Vous êtes bon sur les verbes réguliers.
C'est pas mal. Alors vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon, comme dirait Enki.
Ah bah c'est charitable ça,
aussi,
bravo.
Moi aussi je peux les rater mes pop. Ouais. Nous sommes toujours en compagnie d'Enki Bilal et de Guillaume Salençon et vient de nous rejoindre Jérémy Clapin. Bonjour, bonjour. Jérémy, vous savez le faire vous aussi ça ou pas?
Le pop?
Ouais.
Pas mal,
voilà,
pas mal.
Enfin Enki.
Oui mais ouais, non, il fait de l'animation donc il y a déjà du son lui.
Je suis
dessinateur.
D'accord. Jérémy Clapin, vous êtes le réalisateur du film d'animation J'ai perdu mon corps, ce qui je me répète est un peu mon état aujourd'hui. J'ai perdu mon corps, c'est l'histoire d'une main coupée qui cherche son corps. Donc au cours de sa cavale semée d'embûches à travers Paris, elle se remémore toute sa vie commune avec lui, son corps, jusqu'à sa rencontre avec Gabriel. Bande annonce.
Est-ce que tu crois au destin?
Comme si tout était écrit d'avance, qu'on suivait une sorte de trajectoire.
Ouais.
Et qu'on pourrait rien changer.
À moins de faire un truc complètement imprévisible et irrationnel.
Un truc comme quoi?
Un truc improvisé, que tu devrais pas faire, que t'aurais pas dû faire, mais que t'as bien fait de faire parce qu'au final ça t'a amené ailleurs. Et tu regrettes pas. Un truc comme ça.
Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi?
J'ai perdu mon corps est adapté du livre de Guillaume Laurent, Happy End. Et Guillaume Laurent a également participé à l'écriture du film. C'est comment d'écrire à quatre mains un film sur une main?
Alors, c'est difficile d'écrire à quatre mains. Déjà, à une main, c'est difficile pour moi. C'était mon premier long métrage. Et du coup, comme c'était l'auteur du bouquin, Guillaume Laurent, c'était à moi vraiment de prendre le cap et de réinventer un peu l'histoire du livre pour le trahir même et le porter au cinéma. Donc moi, c'est un long travail parce qu'on a été très peu aidés à ce moment-là de l'écriture. Et on a fait ça vraiment uniquement dans un sens artistique, en fait. On n'avait pas de marketing à tenir. C'était un pitch très difficile. On savait qu'on allait avoir du mal à vendre ce film-là.
Oui, j'imagine que c'est pas le projet le plus facile à monter.
Non, quand on en parlait, c'est vrai que les gens s'arrêtaient sur le côté morceau de corps humain et n'allaient pas au-delà, alors que c'est quand même, il y a une promesse de poésie dans le film. Il y a vraiment autre chose qu'une main qui se balade dans Paris. Il y a vraiment tout un discours très universel, une quête d'amour, une quête de soi. Et évidemment, quand on lit le pitch, c'est pas évident de le voir.
Guillaume Laurent, c'est un collaborateur régulier de Jean-Pierre Jeunet. Quand son roman est sorti, Marc Dupont-Avis, producteur émérite dans l'animation, en a acquis les droits. C'était en 2011. Et c'est en cherchant un réalisateur qu'il vous a découvert. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il vous a choisi, vous?
Je crois qu'il cherchait un réalisateur qui venait du court-métrage, où c'est un territoire en fait où on aborde des sujets un peu adultes par rapport au long-métrage d'animation, généralement qui est dédié pour les enfants. Et donc il a vu mes films, notamment un film que j'avais fait où il y avait aussi cette thématique autour du corps. C'était l'histoire, je vais essayer de la pitcher, mais c'est pareil, j'ai toujours du mal sur mes pitchs. C'est un homme qui se prend une météorite de 80 tonnes sur la figure et qui se retrouve à 80 cm de lui-même. Donc la vie est tout de suite beaucoup plus délicate, c'est très visuel, donc c'est encore un pitch voué à l'échec.
Jérémy Clapin, vous devez être content d'être assis dans le fauteuil de Pop 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 pour parler du film, car pour la main coupée, son parcours a été semé d'embûches, comme on le disait à l'instant. C'est quoi? C'est le pitch? Non, je crois pas. C'est pas juste le pitch qui a effrayé. C'est pas aussi le mélange des genres entre thriller, comédie, histoire d'amour, avec lesquels vous jouez pourtant divinement bien.
Oui, je pense que c'était dur à identifier comme projet sur le papier. C'est vrai que le film et le concept de prendre le point de vue de cette main et de faire voyager le spectateur à travers un point de vue complètement inédit amène un voyage dans lequel il est difficile de se projeter. De toute façon, on vit dans une époque aussi où tout est beaucoup très conformé et c'est difficile d'amener des nouveautés. Quand les gens n'arrivent pas à les identifier, finalement, ils en ont peur et le carburant principal devient et souvent la peur dans les décisionnaires, dans les chaînes, c'est souvent le cas. Et voilà, ce film m'a amené un petit peu de chaos, d'imprévu. C'est un film qui est très sensoriel, avec une mise en scène qui est très sensorielle et qui nous amène au-delà dans quelque chose qu'on n'a pas prévu quand on allait voir ce film-là. Et souvent, les spectateurs en sortent cueillis un petit peu parce qu'ils s'attendaient pas du tout à ça.
C'est un film d'animation, mais c'est aussi et surtout un grand film de cinéma. C'est important de le rappeler. Est-ce que vous avez envisagé cette main qui erre en quête de son propriétaire comme un personnage à part entière, c'est-à-dire avec des émotions, des angoisses, en sachant que ça doit être hyper compliqué de lui donner vie? Il y a tout un vocabulaire à inventer.
Alors c'était évidemment l'enjeu du film, c'était d'arriver à créer de l'empathie pour ce personnage-là. Et c'était pas uniquement dans sa manière de bouger. Évidemment, fallait que je sois très attentif à ça. Fallait pas qu'elle soit effrayante, fallait pas qu'elle soit grotesque ou ridicule. Et je voulais en faire un personnage à part entière, comme un animal qui venait de naître. Et fallait qu'on le spectateur ait envie qu'elle poursuivre son aventure et qu'il lui arrive pas trop de bricoles, même si c'est pas trop le cas, on va dire. Et après, c'est cette incursion du fantastique-là qui m'intéresse aussi, c'est qu'elle permet de finalement de regarder la réalité d'un pas de côté. Ouais. On peut raconter une histoire d'amour d'un autre angle, d'un point de vue beaucoup plus sensoriel, parce que le film est abordé d'un point de vue sensoriel. Mmh. Et voilà, tous ces petits éléments-là font que on a un voyage absolument, je trouve, inédit, quoi.
Et on se prend d'affection pour cette main. Enki, c'est quand, vous, la dernière fois que vous êtes pris d'affection pour une main?
La mienne, je l'aime pas spécialement lorsqu'elle résiste à, dans le dessin. C'est très difficile en plus de dessiner les mains. Hein, c'est quelque chose d'assez complexe à faire. D'ailleurs, moi, je considère qu'il faut pas tomber dans l'hyperréalisme pour la main. Faut essayer de la laisser un peu vivre à un moment donné, y compris dans le graphisme. Mais donc, je n'ai pas répondu à votre question.
Mais c'était pas une question non plus.
Il y a un autre personnage très important dans le film, c'est Paris, en fait, qui devient carrément un lieu très très hostile. On est très très loin de la carte postale. Pourquoi ce choix?
En fait, on va découvrir Paris à travers un point de vue différent, celui de la main, et elle vit sur le trottoir, elle va se cacher.
Et dans les années 90, hein.
Et dans les années 90. Oui, parce que je voulais soustraire l'ère numérique, en fait, à ce film. Je voulais une époque où on manipulait plus les choses, où la main avait peut-être des contacts plus physiques, en tout cas qui se réduisaient pas à glisser sur une tablette avec le pouce, par exemple. Et forcément, elle nous amène à découvrir déjà un individu d'un autre angle, mais au-delà de ça, son voyage physique est différent. Donc Paris sera différent à travers ses yeux. Ça, bon, c'est difficile de dire à travers les yeux d'une main, mais c'est vraiment ça. On est même à travers ses oreilles. C'est un petit peu ça. Mmh. Et du coup, on a des angles de Paris qu'on découvre, qui font ressembler Paris à quelque chose d'une architecture plus de science-fiction, presque. Mmh. Et quand je rentrais le soir et que je faisais les décors avec mes équipes, on regardait souvent les trottoirs, les crottes sur les pavés, les mégots, les rails, les rats et tout ça. Mmh.
Vous parliez de poésie, mais il y a quelque chose qui se dégage immédiatement du film, c'est ce sentiment d'étrangeté, qui pour moi se rapproche beaucoup de ce que je vois dans l'animation japonaise, dans les noms.
Oui, bien sûr.
Est-ce que pour vous, ça a été une influence importante, ça?
Je pense que ça m'a nourri.
On parle de dessin animé adulte,
ouais.
Ce qui ne veut pas dire grand-chose non plus, parce que les enfants peuvent le voir, c'est pas très effrayant.
Oui, je pense que ça s'adresse peut-être au-dessus de 12 ans, pour qu'ils essayent de capter un maximum du film, mais c'est vrai que le cinéma japonais d'animation, j'en suis un peu... il m'a nourri quand j'étais jeune, et c'est vrai qu'ils ont l'habitude peut-être de faire entrer le fantastique... D'une autre manière que nous. Finalement, c'est un fantastique qui va côtoyer le réaliste, aussi le quotidien. Mmh. Et j'aime bien cette poésie-là, mais au-delà des films d'animation, c'est aussi dans la littérature japonaise, comme avec Murakami, où les deux ne se combattent pas, en fait. Ça crée vraiment une autre réalité, et on y adhère complètement. En tout cas, moi, j'y adhère.
Très bien. Eh bien, écoutez, ça s'appelle comment, Charline, s'il vous plaît?
J'ai perdu mon corps.
J'ai perdu mon corps. Bien, c'est bien, vous suivez.
Vous avez retrouvé le vôtre?
Oui, c'est un film absolument magnifique, je dirais même encore plus, qui a été présélectionné aux Oscars dans la catégorie film d'animation, après avoir obtenu le Grand Prix à la Semaine de la Critique lors du dernier Festival de Cannes, le Grand Prix du Festival d'Annecy, le Prix du Public. Ça va, hein? On va se calmer un peu, là. Enfin, bref, courez le voir, ça y est, il est en salle, hein, à partir de mercredi. Hein, dans deux jours. Voilà, ça s'appelle J'ai perdu mon cœur et c'est Jérémy Clapin qui l'a signé. Et on vous dit mille fois bravo, Jérémy.
Merci.
Bravo.
Avec très, une très ou deux mains.
Boulot. Allez, un petit peu de musique peut-être. Eh tiens, il y a une anthologie de The Damned qui vient de sortir. Ça vous dirait un petit
c'est
peu
pas
de
possible.
The Damned, ouais. Allez, musique. Black is the Night, cet extrait de l'anthologie définitive de The Damned qui vient de sortir, une compilation absolument indispensable. Merci à tous d'être venus dans ce studio aujourd'hui. Merci Jérémy Clapin. J'ai perdu mon corps, ça sort ce mercredi et c'est plus que recommandé par Pop Pop Pop.
Ah oui.
Ah oui. Merci Anne Kibilal et merci Guillaume Salançon d'être passé nous rendre visite. Je rappelle que les Chess Boxing Fights de Paris se dérouleront le 9 novembre prochain au Cabaret Sauvage. Voilà. Merci d'être venu. Merci aussi à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Nicolas Cazot, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain, dans Pop Pop Pop, Nikita Bellucci et la jeune chanteuse Isult qui sera en live sur la scène de Pop Pop Pop. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos grippe sur YouTube, abonnez-vous à...
Oh la dame aux camélias.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 36 15 pop 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 sur Instagram et Twitter.